Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Nous sommes en septembre 2025 et c'est un épisode de news. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Alors, comment ça va? Ça va bien? Fin d'été?
Ouais, écoute, j'ai passé un été un petit peu tranquille, mais j'ai quand même bossé et tu vois, j'ai trouvé un rythme un petit peu plus soft entre un peu chill, tranquille et un peu de code. Et c'était plutôt pas mal parce que j'ai quand même réussi à avancer sur les projets tout en restant un peu tranquille et en profitant un petit peu de l'été. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un bon équilibre que j'ai réussi à trouver. Donc c'est cool.
Ouais, surtout au mois d'août, on est un peu plus tranquille pour travailler, tu vois. T'as moins
Ouais,
de
ouais.
mails.
Et ce qui est super bien, c'est que tu peux envoyer des messages à tes clients pour leur dire, voilà, il me faut à tout prix ça, il me faut à tout prix ça, ça, ça. Et de toute façon, il n'y a personne qui va te répondre parce qu'ils sont tous en vacances.
Ouais.
Donc, en fait, c'est un super moyen de gagner du temps. Et tu dis, attendez, mais vous ne m'avez pas répondu en temps et en heure. Attendez, les loulous, là. Donc, non, c'est plutôt
C'est
pas mal.
vicieux.
Donc, ouais, bah, c'est l'art et la stratégie de gagner du temps, quoi. Donc non, non, c'est pas mal. Et puis, on repart sur septembre avec des beaux projets. Et puis, on continue à bosser. Et nous, on sera encore là sur Double Slash. De toute façon, on reprend un peu les épisodes news où on vient en fait éplucher toute l'actualité. On essaye de trouver la différence entre le bruit et des signaux un peu plus intéressants qui peuvent amener en tout cas des choses intéressantes dans notre industrie. On va parler de Malte, qui est un peu dans la tourmente, en tout cas à grosse, grosse vigilance. On va parler de DB avec du SQL, où en fait c'est un peu du rebranding. Grosse conférence de Lara, de Laravel. Sur la Laracon US en 2025 avec plein d'informations. On va parler un peu de CSS, on va parler de LLM suisse pour sortir un peu des girons américains. On va parler de CSS et de techniques pour entraîner un petit peu nos agents pour qu'ils soient plus malins. Et voilà, ça c'est le programme, c'est le sommaire de cet épisode. On attaque tout de suite.
Allez, c'est parti.
On le disait en intro, Malte qui est un peu dans la tourmente, non pas côté business ou côté métier, mais ils sont en fait le vecteur d'une attaque phishing, on pourrait dire.
Ouais, une attaque assez ciblée. Alors en fait, ils ont communiqué très récemment par mail aux personnes qui étaient inscrites, je pense. J'ai reçu un mail. Alors je suis inscrit, mais voilà. Mais ça fait longtemps. Ouais. Me jugez pas. Et donc en fait, le piège, c'est que tu vas avoir une mission qui va être plutôt bien rémunérée, assez courte et qui semble très facile à faire. Donc, débugger un truc Node, un code de Node.js. Et en fait, apparemment, quand donc la personne insiste beaucoup pour que tu lances le projet Node, npm start, npm dev. Et a priori, bah, une fois que tu as lancé ça, ça a l'air de faire des choses malveillantes dans ton ordinateur. On ne sait pas exactement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu quoi exactement. Mais voilà, j'avais vu des gens parler sur LinkedIn qui expliquaient comment ils avaient été approchés, etc. Et comment la personne a insisté vraiment pour qu'il installe le projet Node et qu'il le fasse tourner. Donc, ils ont coupé court. Ils ont jamais installé, etc. Mais voilà. Et donc, maintenant, Malte commence à communiquer. Donc, attention, si jamais vous voyez des missions, si vous êtes approché par des trucs qui semblent trop beaux pour être vrais, quoi, bien payés, trop faciles, etc. Ça sent mauvais, quoi.
Ouais, après, c'est sûr, hein. Environnement Node, c'est un peu open bar. On peut imaginer un scan de tous les fichiers qui s'appelle .env, par exemple, pour aller récupérer tous tes tokens d'accès, pour aller récupérer tes clés SSH. Voilà, on pourrait aller très très loin et clairement, oui, si c'est trop facile, trop beau et on te demande de lancer un projet alors même que tu n'as même pas commencé ta mission, tout, ouais, c'est un peu dangereux.
Ouais, c'est assez pointu hein, comme technique. On avait déjà vu il y a quelque temps les personnes qui intégraient les communautés open source de certains packages, mais longtemps à l'avance et petit à petit. Et puis après, ils intégraient discrètement du code malveillant dans le code source, sans que ça se voit vraiment en fait.
C'est
C'est assez
énorme.
vicieux. C'est ouais, ils sont très très malins et bon.
Ouais.
Heureusement, il y a des gens qui détectent ça rapidement, mais il
D'où
faut être méfiant quand même.
l'importance de l'open source avec une vraie communauté qui vient relire. Parce qu'un projet open source maintenu par une seule personne, en clair, c'est lui le patron, il fait ce qu'il veut, quoi. Et qui va relire, qui va garder cette gouvernance. Donc, attention, attention sur ce type de projet. Yes. On passe à la news suivante qui, en fait, c'est pas tellement du nouveau, en fait. On va être hyper
Non, mais
clair.
il fallait parler de DB, quoi, c'était obligatoire.
Exactement, il fallait parler de
Pas
DB.
un épisode sans
Non, en fait,
DB.
il y avait dans toute cette nouvelle vague de nouvelles DB qui sortaient, il y avait Edge DB, en fait, qui était une nouvelle base de données. Et là, j'ai un peu le sentiment qu'ils font un peu machine arrière. Et en fait, ils se présentent maintenant comme une surcouche de Postgre. Ce qu'il était sans doute avant, sauf que ils avaient leur système bien bien particulier, un mode de query bien 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 particulier, et ils se renomment tout simplement Gel. Pourquoi Gel? Objectivement, je
Ouais, c'est
sais pas
bizarre.
trop. Ouais, c'est un peu conceptuel. Ouais, why not?
Rafraîchis-moi la mémoire. HDB, c'était le système où il promettait un peu tout, les valeurs, du vecteur, tout ça.
Non, ça c'est
Non, c'était pas ça.
SurrealDB. Non.
Ah, Cyril, ouais, je confonds les deux,
Ouais,
ok.
ça c'est SurrealDB.
D'accord.
Et en fait, c'était une DB qui est très 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 typée. Tu vas avoir donc ta DB, ton ORM et ta méthode en fait de query pour vraiment lancer
Ah oui.
tes recherches. Et en fait, ils avaient fait un langage spécifique qui s'appelait le EdgeQL. Et bah maintenant, en fait, ils disent non, non, mais tu peux faire du SQL aussi. Et en surcouche de Postgre, tu vas en fait définir ton schéma pour avoir en fait des choses assez typées. Donc, tu vas ce qu'ils appellent des gels, en fait. Et tu vas avoir tes types. Voilà. Donc, c'est une syntaxe un petit peu particulière. De la même manière, tu vas avoir tes migrations. Ils ont fait un SDK partout pour tous les langages. On est d'accord. Et après, en fait, tu vas avoir directement soit ton ORM un peu classique dans ton TS, soit tu vas pouvoir utiliser leur langage de query qui est proche, on va dire, du GraphQL, mais pas tant que ça, c'est quand même un peu spécifique. Donc ça veut dire qu'il y a une barrière à l'entrée qui est pas non plus négligeable. Et ils viennent avec le système cloud, avec une espèce d'interface et leur système d'extension avec de l'IA. Et ils viennent intégrer directement l'authentification en fait directement au cœur en fait d'une extension de la DB.
Ouais.
Ça,
OK.
c'est plutôt sympa. L'authentification, c'est toujours un peu chiant. Mais voilà. Est-ce que c'est une révolution? Je pense pas. Ce qui prouve bien que en fait, Postgre en fait, devient un peu
Ouais.
le leader,
Ça
quoi.
monte, hein.
C'est surtout
C'est
ça.
clair.
C'est surtout ça que ça qui est mis en valeur, c'est que toutes les DB un peu propriétaires qui voulaient faire un truc un peu spécifique, au final deviennent des
Ils reviennent
surcouches,
sur du natif, ouais.
des extensions, mais la base et le socle, en fait, ça reste du Postgre et on
Ouais.
vient mettre un espèce de wrapper par-dessus pour améliorer la chose, quoi.
Ouais, c'est un peu un aveu de, pas un aveu d'échec, mais pas loin, parce que Ouais, comme tu dis, le query language, il est, voilà, il faut l'apprendre. Il y a une courbe d'apprentissage, tout ça, qui est peut-être un point d'entrée difficile.
Ouais.
Donc, c'est pour ça. Ouais. Et puis, par contre, je vois que maintenant, c'est du point gel. Donc, ça veut dire que j'espère qu'ils ont prévu un outil de migration ou qui va transformer l'extension des fichiers, tout ça.
Ouais, je pense, oui, je pense que enfin, s'ils ont pas fait ça, là, c'est double peine, quoi, parce que
C'est
toutes
clair.
les personnes qui ont déjà fait leur migration et qui ont mis ça en prod, waouh, chaud, quoi. Donc, à tester, à garder un œil dessus pour voir si ça amène une réelle valeur. Allez, on bascule dans l'univers Laravel parce qu'il y a eu la Laravel Conf,
Raconte US.
la Laracon, pardon. Et donc, on y reviendra. Néanmoins, là est sorti des kits, des starter kits officiels. Donc, les starter kits, c'est un peu une espèce de template. Et tu fais git, enfin tu fais new, Laravel new, je ne sais pas quelle est la syntaxe, vous m'excuserez. Et en fait, on a déjà quasiment toute notre application déjà montée avec un système d'authentification out of the box, quoi.
Ouais, t'as tout. Ouais. Alors, c'était une des annonces de la Racon US qui a eu lieu au milieu de l'été. C'est l'événement vraiment majeur de l'écosystème Laravel, où il y a les plus grosses annonces sur l'année. Et ça faisait partie des annonces. C'est trois starter kits ouais, qui te permettent d'avoir des applications déjà bien avancées, avec un dashboard, login, tout ça, gestion des mots de passe, gestion utilisateur, gestion de ton compte. Voilà, après plein d'options, tout ça, mais vraiment assez complet, puis propre en plus, hein. Le dashboard, il est vraiment plutôt réussi. Et c'est basé sur trois technos. Bon, évidemment, du Laravel en back, toujours. Par contre, devant, tu as soit du React et du Vue avec Inertia, soit du Livewire, qui est un mélange avec Alpine.js, qui marche super bien. Donc voilà, tu as ces trois kits disponibles, open source, tout ça, que tu peux utiliser. Et ça fait plutôt gagner du temps énormément, ne serait-ce que pour un POC. Ça peut aller très très vite, quoi.
Ouais. Après,
Et c'est
c'est
propre.
toujours le problème du boilerplate et du template de trouver le bon compromis entre quelle est la feature que je vais toujours utiliser et qu'est-ce que je vais implémenter moi-même. Tu vois, c'est soit t'as pas assez, soit t'as trop.
Bah là, c'est vraiment le minimum, c'est ce qu'il faut. En fait, c'est vraiment tout le wrapper autour de ton application, donc login, tout ça. Mais après, c'est à toi de rajouter tout ce qui va à l'intérieur, en fait. Voilà.
Ok.
C'est le juste, c'est le strict minimum, voilà. Mais que tu, voilà, que c'est le genre de choses que tu vas de toute façon faire toujours à l'identique. Donc autant utiliser les starters qui sont déjà
Ok.
là. Et le code, enfin, je l'ai inspecté, le code, c'est plutôt bien organisé. Il n'y a pas de truc obscur, tout ça. C'est voilà, c'est le code source, c'est comme si toi tu l'avais fait, sauf que c'est déjà prêt.
Et c'est sans doute mieux fait que si c'est moi qui l'avais
Oui,
fait.
certainement, ouais.
Parce qu'il y a eu
C'est
plein de
clair.
personnes qui ont travaillé dessus et qui ont apporté donc leur jus de cerveau. Donc 10 cerveaux vaut toujours mieux que 1. Ça, c'est clair. Ok, top.
Ça, c'est propre, ouais.
Ouais, vraiment, vraiment propre. Petite annonce aussi sur Inertia.
Ouais, ça, c'est petite évolution sur Inertia en 2.1.0. C'est l'arrivée d'un nouveau composant Form. Je rappelle, alors Inertia, c'est un système qui permet d'avoir un back Laravel et un front avec une librairie type React ou Vue. Et en fait, entre les deux, Inertia fait le pont. Et donc, on n'a plus besoin de construire une API REST, etc. En fait, la connexion, les data se transfèrent automatiquement, en fait. Donc, tu n'as plus besoin. Tu as ton component, tes data sont déjà dedans. Tu n'as pas besoin d'aller faire un appel, un fetch ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment assez magique. Et ils ont rajouté un nouveau composant qui s'appelle Form, tout simplement. Où tu vas wrapper tes champs input et le form va gérer tout seul l'envoi des données, etc. C'est la validation des données, s'il y a des retours, des erreurs, etc. Donc ça te gère totalement le formulaire. Et en fait, c'est ce qui manquait vraiment pour encore plus faciliter les choses. Donc voilà, tu peux faire pareil avec ce Inertia, tu peux faire des projets très rapidement tout seul et bien fait, en fait.
Très les formulaires, on sait que c'est la merde. Hein.
Ah ouais, les formulaires.
C'est vraiment l'enfer. Donc, vraiment, vraiment, vraiment sympa, quoi. Et donc, il y a une doc qui est spécifique et qui vient brancher et qui est complètement agnostique si on utilise du Vue, du React ou du Svelte.
Ouais. Je rappelle que Inertia, c'est un projet qui n'est pas forcément lié à Laravel. Hein. C'est un projet qui existe aussi sur le framework JS qui s'appelle, rappelle-moi, l'équivalent de Laravel en JS. J'ai un trou. Est-ce que tu l'as?
Oui. Ouais, je vais le trouver. Je vais le trouver.
Bon, bref, voilà. En fait, Inertia existe aussi sur d'autres technos, donc pas forcément que Laravel, mais donc voilà, il y a un package Inertia Laravel qui fonctionne très bien, et donc front et back, et voilà, qui nous permet de faire des apps avec. Plutôt pas mal.
Ouais, carrément.
On va retrouver le nom du, ouais, du framework.
Exact. Durant cette conférence, évidemment, plein de vidéos sont sorties. On voit là le Caleb qui présente la nouvelle version de LiveWire en version 4.
Mmh. Ouais, grosse sortie, ouais. Et super présentation. Alors, je vous recommande de regarder la vidéo, elle est très intéressante. Caleb, il est plutôt pas mal sur scène. Et donc sa présentation est vraiment instructive et puis il a bien fait les choses, quoi. Donc LiveWire 4 qui n'introduit aucun breaking change, donc tu peux passer de 3 à 4 sans rien casser sur ton application, donc ça c'est super déjà. Ouais. C'est pas une réécriture complète, etc., donc c'est juste des améliorations. Et voilà, il y a plusieurs annonces. Déjà en fait il y a le single file component qui est maintenant par défaut, donc pour ceux qui connaissent un peu LiveWire, on avait trois possibilités pour faire des components avec des multiples fichiers ou single file, etc. C'était Vault, on appelle ça Vault. Maintenant, par défaut, c'est single file. Et puis voilà, c'est un peu à la vue. Donc, tu as le script et le HTML dedans. Donc, voilà, ça simplifie les choses. Ils ont, voilà, c'est un choix, il fallait le faire. Donc, voilà. On a des slots qui sont arrivés. Donc, ça, okay. C'est pas mal. Ce qui existait déjà sur Blade, en fait, sur Blade, tu peux déjà faire des components avec des slots et des attributs qui vont surcharger, en fait, dans ton component les attributs et, voilà, et afficher le slot. Là, maintenant, on peut le faire exactement pareil avec LiveWire, donc c'est plutôt pas mal. Ça va améliorer le code, la simplification surtout. On a des loading attributs, data loading, qui apparaissent tout seuls sur les tags HTML, donc ça te permet de gérer, d'afficher un loader, un truc comme ça. Voilà,
sans avoir besoin d'explicitement dire que là, tu es dans un état de chargement.
Ouais, c'est ça. Donc, sur un bouton, si tu as un truc que tu vas envoyer via une fonction, automatiquement, il va mettre data loading et toi, tu vas afficher ou pas le GIF qui bouge ou un truc comme ça.
Okay.
Donc ça, c'est par défaut, voilà, pareil. Plutôt pratique. Il y a aussi, alors il a eu, donc tu vois, ça c'est ce qu'on voit à l'image pour ceux qui sont sur la vidéo, ça c'est tout ce qu'il a expliqué, tu vois, donc le menu de gauche c'est chaque chapitre, etc. Et il y a une grosse partie benchmark, tout ça, Blaze, il expliquait qu'on reprochait beaucoup à LiveWire d'être un peu lent, etc. Donc il a expliqué qu'en fait c'était pas forcément LiveWire qui était lent, mais c'était plutôt Blade, le moteur de rendu, tout ça, machin, de Laravel. Donc, il a démontré via des benchmarks voilà, en direct, etc. C'était super bien foutu. Et donc, ça a donné Blaze, un nouveau moteur de template qui sera utilisé par LiveWire 4, qui sera beaucoup plus performant que Blade de Laravel. Et voilà, il y a des voilà, performances vraiment... c'est vraiment énorme, le gain de performance. Donc, ça, c'est pas mal. Et dernier truc, les Island Components, qui arrive aussi dans LiveWire, qui permettent d'avoir des composants paresseux, les îlots, et voilà, qui du coup, si ça demande beaucoup de ressources, sont vraiment indépendants de la page et font leur petit travail pendant que tu peux cliquer sur un autre bouton, tout ça. Donc c'est vraiment séparé, tu vois. Donc c'est plutôt voilà, il y a beaucoup beaucoup d'améliorations de performance sur cette version.
Excellent. Et ça, oui. c'est déjà sorti ou ça va sortir?
Alors, il me semble que c'est pas encore sorti officiellement. La version 4, elle est peut-être encore en bêta. À vérifier, je sais plus où ils en sont. Okay. Mais au moment où il a fait la présentation, elle n'était pas encore dispo. Il a juste révélé ce qui allait sortir.
Ok. Mmh. Ça marche.
Donc, vraiment pas mal. Alors, je rappelle quand même ce que c'est LiveWire, parce que je parle de LiveWire, mais ça se trouve, on a des auditeurs qui ne connaissent pas. C'est un système sur Laravel qui permet de faire des éléments interactifs, des composants interactifs, sans faire le moindre ligne de JS. Et c'est basé sur AlpineJS. Et donc, automatiquement, ça va binder des variables qu'on a en back, en PHP, avec des variables qu'on a en front dans le component et rendre les choses interactives telles qu'une librairie React ou Vue. Voilà.
Et out of the box.
Ouais, et sans faire quasiment aucun JavaScript. Ça marche vraiment pas mal.
C'est bluffant. C'est vraiment hyper bluffant. Yes. Deuxième grosse annonce, on va dire, Laravel Boost. Qu'est-ce que c'est Laravel Boost ?
Alors, Laravel Boost, ouais, grosse annonce, celle-là aussi, assez surprenante. Je pense qu'on ne s'attendait pas trop à ça. C'est un package qu'on t'installe sur ton projet Laravel et qui va aussi qui va te rajouter une couche IA pour ton éditeur de code pour développer avec. Et donc, l'avantage, c'est qu'il est avec du MCP, etc. Et l'avantage, c'est qu'il est spécialisé dans Laravel et qu'il va connaître ton projet et du coup, il va te proposer des choses pertinentes, etc. Il va être capable de développer des choses qui correspondent à ce que tu as dans ton projet, ta façon d'écrire et tout.
Ok, et donc, c'est un peu un MCP spécifique pour Laravel, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est une sorte de MCP, IA, etc.
Avec, mais ils l'ont, brandé, en tout cas, ils l'ont appelé Boost. Mais c'est vraiment... c'est pour ça. Ok. Cool, ça.
Ça, c'est pas mal. Ouais.
Et c'est disponible, c'est gratuit, c'est payant.
Ça, normalement, il est poussé, ouais. Oui, c'est gratuit, ouais, bien sûr. Et il est dispo, ouais. Normalement.
Parfait. Allez, autre annonce de Nuno, qui est le créateur de Pest. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est Pest ?
Pest, c'est un package de test qui est basé, qui est au-dessus, c'est une surcouche à... j'ai oublié le nom du truc Claire. PHP de test. PHP Unit, voilà.
Okay.
Donc, c'est une surcouche, sachant que les tests... il y a eu pas mal de packages au fil des années, mais les tests sur PHP, c'est jamais très agréable. Et Pest, justement, se rapproche énormément de ce qu'on peut trouver en JS. Donc, ça rend les tests, l'écriture des tests beaucoup plus agréable et plus sympa. Et donc, il y a une version 4 qui arrive, qui a beaucoup de nouveautés. Mais... vraiment, pareil, Nuno sur scène, là, c'est vraiment intéressant ce qu'il a montré. Notamment, maintenant, on a un navigateur intégré, Playwright, qui permet, en fait, via des fonctions, de lancer un scénario complet de navigation, etc. Et donc, là, ça joue vraiment dans un navigateur. Et l'avantage, c'est qu'on a la détection des erreurs JS, qui est donc, il est capable de dire, là, tu as une erreur, etc., JS, et tout ce qui, en fait, ça lève le JS, donc ça permet aussi de tester, par exemple, du LiveWire 4, donc des choses qui sont interactives, tu vas lui dire de cliquer sur le bouton plus, tu vas pouvoir vérifier si ça a bien incrémenté, etc., donc tu as vraiment une batterie de tests intégrée dans Pest qui te permet de tester des applications JavaScript et qui, de toute façon, vont très bien, ça va très bien avec LiveWire ou Inertia, des choses comme ça qui sont interactives, quoi.
Ok. Et ce qui est hallucinant, c'est que en fait, au départ, c'était une surcouche à PHP Unit qui est un test unitaire, et là maintenant, c'est vraiment du end-to-end, quoi. Donc c'est vraiment toute la panoplie où tu peux, avec le même framework, tu viens faire tes tests unitaires et tes tests d'intégration end-to-end. Top, quoi. Top.
Ouais, il est top.
Facile à prendre en main.
Ouais, il est très facile à prendre en main, c'est ça l'avantage de Pest, et c'est facile à écrire. Je te dis, c'est vraiment proche de ce qu'on a en JavaScript, donc c'est vraiment hyper simple à écrire. Et grosse nouveauté, c'est la comparaison et régression, test visuel en fait. Donc c'est capable en fait de faire des snapshots de ta vue. Et ensuite, tu vas relancer un nouveau test après des changements, et il est capable de te faire un nouveau snapshot, et après, tu peux l'afficher et vérifier entre les deux la différence. Ça peut être du CSS, hein, si tu peux modifier le CSS, il va te dire, là, le CSS, il y a des éléments qui sont plus proches que l'autre, etc. Donc, il y a des tests visuels comme ça, avec affichage, c'est vraiment assez, assez bluffant. Et ça marche hyper simplement avec juste une ligne de commande.
Excellent.
Donc, c'est pas mal.
Excellent. Donc, toutes ces vidéos sont, évidemment, on mettra les liens dans la description si vous voulez aller les voir. Et même, on mettra les liens de Pest, de Laravel Boost et de toute la suite de Laravel, de tous les outils Laravel. Tu parlais de CSS, on va repartir. C'est vrai que ça peut être parfois un peu la plaie pour certains développeurs. Il y a des anti-CSS, il y a des pro-CSS. Néanmoins, construire un layout de page, souvent, en fait, il est quand même bien plus préférable de respecter des directives, ou en tout cas des conventions. Et ce site, en fait, nous permet de créer des layouts directement un peu standard via des grids ou via des flexbox. On trouve directement, en fait, et c'est de manière très, très, très visuelle, on voit, en fait, les éléments, on peut les modifier. Et on a notre CSS directement qui est généré à droite. Et on n'a plus qu'à le copier. Et chacaboum, c'est parti, quoi. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. T'es plutôt fan de ce type d'outil-là ou pas du tout?
Bah, perso, je n'utilise pas trop. Mais après, oui, c'est pas mal ouais, pour les personnes qui sont un petit peu bloquées sur comment faire, ou au moins pour lancer le truc. Je sais pas comment je vais faire mon layout, mais là tu peux, voilà, t'as une base et puis après tu peux le modifier. Donc ouais, ça peut aider pas mal, ouais.
Ouais. Perso, quand j'étais au début des grids, là où j'ai commencé à utiliser les grids, il y avait plein d'outils qui sortaient et en fait on voyait l'effet visuel tout de suite avant même d'avoir joué avec toutes ces grids. On comprenait l'intérêt et c'était super intéressant. Et puis après, en fait, tu fais ça quasiment pas natif.
Ouais, en fait, y a...
Après, parce que tu as plus l'habitude, quoi.
Il y a un intérêt pédagogique aussi, voilà. Quand par exemple, tu peux maîtriser Flexbox, mais pas forcément Grid. Et surtout là, tu veux utiliser les zones. C'est ça, on appelle ça les zones, les headers, tout ça là.
Ouais.
Ou si t'es tu pas trop à l'aise nommer. Avec ça.
Ouais.
Voilà. Tu peux apprendre. C'est super pédagogique en fait.
Carrément. Carrément. Outil intéressant ou pas, à vous de voir. Un autre outil qui reste dans le terme de design, on a vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de sites, en tout cas, qui se basent sur des grosses librairies, type ChatCN, type Nuxt.UI. Néanmoins, on peut vite avoir besoin en fait, de faire du custom et de pouvoir modifier un petit peu tous ces éléments. Bah, pour éviter en fait, qu'on se retrouve avec le même design ou en tout cas le même aspect visuel. On ne voudrait pas refaire... quand on arrivait sur un site, on savait que ça, c'était du Bootstrap parce qu'on le connaissait.
Ah oui.
Là, okay. Aujourd'hui, on a des moyens de customiser. Néanmoins, l'application de ces thèmes, parfois, peut être un petit peu plus compliquée. Et donc, c'est là où des outils comme ce qu'on présente peuvent être super intéressants. On peut ajouter des couleurs et on peut en fait customiser directement nos composants. Au lieu d'avoir par exemple des bouts ronds, on va avoir des bouts carrés, on va avoir tel espace entre le texte et on va avoir visuellement en fait un rendu immédiat. Ce qui va nous permettre de pouvoir ajuster et de faire tout ce qu'on veut et de rajouter en fait les classes que l'on veut. Et une fois que c'est terminé, on va pouvoir en fait avoir un preview global de tous nos composants et surtout en fait on va pouvoir récupérer en fait l'intégralité du texte qui est généré et pouvoir en fait intégrer ça directement dans notre thème et automatiquement tous nos composants respecteront en fait ces conventions là. Donc c'est un bon moyen en fait quand même d'avoir quelque chose d'avoir le pour moi en tout cas je considère le meilleur des mondes, c'est-à-dire les composants qui sont déjà prêts out of the box tout en mettant une spécialisation et une customisation qui nous permettent d'avoir une singularité au sein de notre site, quoi.
Ouais. Mais ça c'est avec Next.ui, c'est ça?
Celui-ci,
Next.ui,
c'est avec Nuxt.ui, ouais.
Ouais, Next.
Oui, Nuxt.
Et ça te sort la config, hein, c'est ça en fait? Pas
Ouais,
forcément, parce qu'après, c'est
exactement.
séparé, Next.ui.
Oui, et
D'accord.
en fait, tu vas avoir dans Nuxt.ui, tu vas avoir un fichier de config dans lequel en fait tu peux overwriter tes règles de base, en fait,
Ouais.
et c'est là où tu vas coller en fait tout tes sorties en fait pour aller
D'accord.
directement. Donc ouais, tu vas prendre le code généré, tu vas l'injecter dans ton app config, dans ton UI, pour que ça se mette à jour partout. Tu peux le
OK.
faire aussi au niveau de ton composant, mais le problème c'est que si tu réutilises ton composant à un autre endroit, bah, tu vas perdre toute la spécificité que tu as fait, quoi. Donc tu vas être obligé de le faire deux fois, tout. Donc que si tu le centralises, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à mettre en place.
Okay.
Petite fonte de développeur, parce que en tant que bon développeur qui se respecte, on aime avoir des fontes dédiées et bien spécifiques. Et là, c'est Google Font qui vient avec son Google 100.
Google sans code, ouais, c'est une fonte qu'ils ont lancée là, enfin qu'ils ont rendue disponible, qui est spécifique pour le code, pour la lisibilité du code. Donc c'est souvent important, hein, faut pas négliger la fonte qu'on utilise au quotidien, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps sur l'éditeur de code, et c'est bien d'avoir quelque chose qui soit bien lisible, qui fatigue pas les yeux. D'autres éditeurs avaient déjà sorti des fontes, hein, notamment JetBrain, tout ça, ils ont des fontes spécifiques pour eux. Mais voilà, c'est une de plus. Il faut tester, il faut voir comment ça rend au niveau de votre code. Mais c'est assez facile à installer. Donc...
Et surtout, elle est gratuite, contrairement à
Oui.
certaines fontes de code qui sont à des prix astronomiques.
Ah ouais?
Ah ouais, c'est abusé,
D'accord.
c'est vraiment indécent. Donc là, au moins, elle a le mérite d'être
Ouais.
gratuite. Donc à tester pour voir si ça fait son petit effet et si vous aimez surtout. C'est plus ça le plus important. Allez, on bascule dans le monde un petit peu des LLM ou le Z, donc qui est un éditeur de code. Eux, ils viennent avec un article pour nous dire que au final, les LLM, ils seront pas en capacité de construire des logiciels.
Ouais, en tout cas pour l'instant. Après, il dit dans le futur peut-être, mais oui, en fait c'est un article assez court, hein, où alors Z, c'est un éditeur de code qui est assez récent, qui est basé sur Rust et qui utilise de l'IA. Tu peux utiliser une brique IA comme pour Cursor, tout ça, donc il va t'assister, etc. Donc ils sont dans le truc, quoi. Je veux dire, c'est pas voilà, ils ont pratiqué l'IA, ils le pratiquent. Donc en fait, ce qu'il dit dans l'article, c'est que les LLM, pour l'instant, ils sont pas du tout capables d'écrire des logiciels complets. Voilà, on peut pas dire, enfin, fais-moi un site internet, fais-moi une application qui va faire ci, ça, ça, ça. Elle n'est pas capable de le faire. Et ou en tout cas, ça va être assez brouillon, tout simplement parce qu'en fait, les LLM ont pas une vision d'ensemble en fait par rapport à un humain. Et donne des exemples comme ça. Par exemple, il dit en cas d'échec de test, bah, l'LLM, il sait pas s'il doit réécrire les tests, s'il doit réécrire les fonctions. Alors du coup, il efface tout, il repart de zéro. Enfin voilà, il n'a pas la jugeote en fait pour évaluer son code. Et voilà, pour l'instant, c'est assez compliqué. Donc voilà, il est très très bon. Il dit ils sont très très bons pour écrire du code, pour écrire des tests, etc. Mais ça s'arrête là. Après, un truc complet, c'est quasiment impossible. Et il dit peut-être plus tard, ça arrivera, mais il faudra revoir l'architecture voilà, des modèles et puis revoir l'entraînement aussi des modèles. Donc
Après, il y a d'autres outils peut-être qu'on verra tout à l'heure qui nous permettent de faire ça. Et est-ce que c'est une raison pour laquelle un autre article, en fait, où en fait on se rend compte que bah, les LLM et l'IA, tout ça, ne rentrent pas trop dans les entreprises. Est-ce que c'est un peu à cause de ça aussi ou pas?
Bah, en fait, c'est lui. Alors, Fred Cavazza, il fait un article. Bah, il est assez récent. Où, alors moi, je suis très d'accord avec lui. C'est que, et j'en parlais pas longtemps encore avec des personnes, c'est que l'adoption dans les entreprises de l'IA, elle est ultra lente, ultra, ça n'avance pas du tout en fait. C'est plutôt, lui dit, c'est plutôt lent et chaotique. Donc en fait, pour l'instant, on a beaucoup d'annonces de modèles. Il dit là, pendant que j'étais en vacances, il y avait quasiment tous les jours des nouveaux modèles, etc. C'est un peu la folie. Sauf que derrière, les vrais gens, les entreprises, tout ça, eux, ils s'en foutent du modèle en fait. Ce qu'ils veulent, c'est des, c'est toujours le même problème. Hein. C'est régler des problèmes. Je veux gérer une image, je veux générer une image, je veux faire corriger mon texte, etc. Et en fait, ils s'en foutent complet que ce soit GPT-5 qui est sorti d'ailleurs il y a pas longtemps. Ce qu'ils veulent, c'est un résultat. Donc en fait, dans les entreprises, c'est assez compliqué, c'est toujours pas bien implémenté, ça traîne, etc. Donc voilà, il y a tout. Il fait tout un article là-dessus.
Ok, intéressant. Après,
oui, moi, je suis très d'accord avec lui.
C'est ce qu'on a vraiment, et ce qu'on dit depuis le départ, hein, de toute façon, c'est que les LLM ne sont que des moteurs.
C'est exactement ce qu'il dit.
Ok. Alors, j'ai pas lu l'article pourtant.
Donc, il dit que les modèles, c'est des moteurs et qu'en fait, les gens veulent des voitures. Donc, c'est ça le problème. En fait.
Exactement. Et en fait, moi, j'y vois une opportunité. En fait, c'est que au lieu d'aller voir ton client, et pour le coup, ça, c'est du vrai, de l'anecdote sortie du concret, de relation avec mes clients, où eux, quand tu leur dis ChatGPT, IA, c'est no way, ils ne veulent pas en entendre parler. Par contre, si tu leur fais une application qui va générer automatiquement des informations basées sur un contexte, tout ça, en clair, c'est un wrapper. C'est un wrapper qui vient utiliser, qui utilise les moteurs. Là, en fait, tu leur montres tout de suite le bénéfice qu'ils ont. C'est OK, au lieu de faire tant de textes par jour, on va dire 10 textes à l'heure, ou 10 descriptions à l'heure, là, en fait, tu vas pouvoir en review, tu vas faire une révision de peut-être 100 à l'heure. Donc, c'est plus du tout le même boulot et le gain de productivité est réel, vraiment objectivé. Et là, en fait, oui, ils tendent l'oreille, ils écoutent. Il faut venir... en fait, on essaye de pousser des perceuses alors qu'il faut vendre le trou, quoi. Tu vois,
c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, lui, il va assez loin parce qu'il parle de tag time. C'est un truc allemand où tu sortir le produit au bon moment sur le marché. Et du coup, il compare ça presque à la blockchain et tout ça, qui n'ont jamais réellement trouvé leur public. Ou en tout cas, pour les gens lambda, ça ne parlait pas de la blockchain. Ouais. Et où la VR, etc., tu vois, ça reste quand même... très peu utilisé dans le public. Et donc là, il dit, est-ce qu'on n'en est pas là, en fait, avec l'IA ? Est-ce que, à force... Parce que finalement, on a beaucoup d'annonces de modèles, etc., mais c'est pour lever des fonds, beaucoup. Et c'est surtout pour ça.
Ouais. Après, tu peux pas nier, tu vois, quasiment tous les développeurs aujourd'hui utilisent l'IA de manière directe ou indirecte. Tous les développeurs n'utilisent pas la blockchain. Donc la pénétration de marché, quoi qu'il en dise, lui, elle s'est fait peut-être sur des niches encore. C'est pas encore quelque chose de mass market, vraiment tout le marché, mais il y a déjà une pénétration de marché bien plus poussée que n'importe qui. Par contre, c'est à nous, développeurs ou agences, d'aller démarcher les clients ou en tout cas de proposer des solutions clairement basées sur des wrappers. Parce que on va pas, tout est wrapper, quoi. Tout est wrapper. Et on utilise ça et on résout le problème du client avec notre wrapper. Et là, je pense qu'il y a pas mal de thunes à aller récupérer, pour faire clair, pour faire court. Et justement, si on est amateur de... on est sur la stack LLM, en tout cas, pardon, Laravel, et qu'on veut utiliser les LLM, on a une appli... C'est quoi ? C'est une librairie qui s'appelle Prism.
Package, un package. Qui était annoncé... Enfin, il y a eu une présentation durant la Laracon aussi. Bon, on l'a mis dans la rubrique IA. C'est Prism, en fait, c'est un package PHP qui est, on peut le comparer, c'est l'équivalent au package IA de chez Vercel. Si tu vois ce que je veux dire.
Ok, ouais, bien sûr, complet, bien sûr.
La librairie IA, où tu as une librairie core, en quelque sorte, et ensuite, derrière, tu vas rajouter des providers OpenAI, etc. Donc là, ça marche un peu. De toute façon, il s'en est pas caché. Il a un peu, il s'est inspiré de cette librairie pour développer Prism. Et donc, tu as voilà un package core et après, tu vas rajouter des drivers en fait qui vont te connecter à tel modèle ou tel modèle, etc. Et donc après, voilà, il y a plein de fonctions pour faire de l'audio, du texte, etc. C'est plutôt bien fait. Elle est vraiment, c'est un équivalent de ce qu'on trouve en JS.
Et pour le coup, ça c'est le gros avantage, c'est que c'est modèle agnostique, c'est toujours la même librairie, donc la même syntaxe, donc les mêmes API, les mêmes fonctions. Donc c'est facile à s'y retrouver. Et derrière, c'est facile à faire évoluer. Et surtout, tu veux brancher. Tu bascules de GPT-5 à Grok, à Olama ou à X à Grok. Enfin voilà, c'est vraiment top quoi. Donc si vous voulez faire des applications pour les entreprises et vous êtes sur une stack PHP, et bah, Prism fait le job parfaitement.
Ouais, ouais, c'est vraiment. Alors il y avait déjà des libs PHP IA, mais alors celle-là, je pense que c'est vraiment la brique qui manquait.
Et puis ils ont un logo qui déchire quand même.
Ouais, il est classe en plus.
Ah ouais. C'est clair. Ouais, le logo est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, ça, c'est top. Allez, on bascule plutôt sur des outils pour nous, développeurs. Souvent, quand on va demander à notre agent de coder telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, il arrive souvent en fait que soit c'est des hallucinations totales, ce qui devient de moins en moins possible et en tout cas qui tend à vraiment réduire parce qu'on utilise des context sets, des MCP qui vont venir en fait vraiment nous donner la bonne version de la documentation. Si vous n'avez pas vu l'épisode sur context set, allez voir le workshop où on vous explique comment réduire les hallucinations avec les IA. Néanmoins, c'est quand même rare que l'IA sorte quelque chose bon du premier coup. Et donc, on va avoir des erreurs en console. Et au lieu de faire exactement ce que j'ai fait hier, pour le coup, en mode petit test de vibe coding, où je prends l'erreur et je fais un copier-coller dans mon agent et je dis « Ok, j'ai telle erreur dans ma console. » Bah, analyse-la et fixe-la. Et là, en fait, c'est une solution qui vient en fait se connecter, donc qui crée un MCP qui vient se connecter directement sur la console de ton navigateur.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il va du coup récupérer les erreurs dans le navigateur, enfin du navigateur, et les utiliser pour, voilà, pour corriger le code. Donc, c'est plutôt malin. Et c'est framework, enfin les supports de framework, c'est React, Vue, Nux, tout ça. Donc je pense que c'est une librairie qui se met dans ton framework et qui du coup va faire le pont.
Code, ouais.
Ouais. Ouais. Et du coup va faire des appels pour récupérer les logs, quoi.
Excellent.
C'est malin.
C'est excellent. Et surtout leur logo ou leur mascotte, c'est un espèce de petit chat et il est méga vénère le petit chat. Le deuxième petit chat est plus gentil, tout mignon. Par contre, le premier, il est vraiment vénère et ça, c'est cool. Non, mais pour le coup, je pense que ça peut être vraiment super intéressant. Installation dans ton package, enfin dans ton appli, plus l'installation du MCP pour justement en fait faire la navigation entre ton navigateur. Tout tourne en local, donc ça c'est plutôt bon. Non, et très 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 bon, très très bon tools. Je le connaissais pas, je l'ai découvert tout à l'heure avant l'épisode. Je suis complètement convaincu, ça peut être super 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 intéressant de tester
ça. À tester. Ouais.
Allez, un autre outil que tu nous proposes, Patrick, c'est agent.md. Clairement, en fait, c'est de venir donner des pré-instructions, on pourrait dire, à notre agent pour aller, en fait, tout simplement être bien plus spécifique et donner un petit peu plus d'intelligence en amont. Et c'est quoi ? C'est une collection
C'est une page pour expliquer le principe de agent.md. Il dit les robots Non, c'est pas les, c'est les readme.md, c'est pour les humains. Et de, donc, le agent.md, c'est pour les agents. Et il explique le principe. Et ensuite, t'as une, il t'envoie directement sur GitHub faire une recherche via le lien. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, il y a pas mal de projets qui ont déjà des agents.md sur leur projet. Et donc, tu as plein d'exemples, tout ça. Comment les écrire et tout.
OK. Donc, est-ce que c'est pour vocation de faciliter le boulot des MCP ? Est-ce que c'est pour nous, développeurs, au moment quand on utilise un agent qui vienne bien, bien spécifier toutes les informations, le but, c'est de c'est pas spécialement pour nous développeurs, c'est plus pour, non, c'est pour les agents. OK.
Non, c'est pas, c'est un, je pense que c'est, alors je sais pas si, si c'est bien pris en compte encore par les agents justement. Faudrait vérifier parce que c'est un peu comme le LLMS.txt, tu vois. On a déjà, on les fait déjà, mais c'est pas forcément toujours pris en compte. Là, ils essaient de lancer un format ouvert qui en espérant que ça soit pris en compte, ou c'est peut-être déjà pris en compte par certains. Pour les agents, pour qu'ils aient le contexte du projet, tout ça, plus rapidement. Et voilà, quoi.
Ok. À voir comment ça évolue, mais ça peut être
intéressant.
Super intéressant.
Ouais, plutôt que d'écrire des rules dans tous les sens, peut-être qu'un agent.md peut être pas mal, fait.
Ouais. Après, est-ce que ça remplit la même mission ? Il faut voir. Mais ouais, carrément. Ouais. Allez, dernier point. Petit modèle à la Suisse.
Ouais. Oui, c'est Proton. Proton, donc Proton qui fait déjà les mails, les VPN, enfin plein de services. Et leur priorité, c'est la privacy, donc tout est crypté, etc. Et donc là, ils ont sorti un modèle, qui s'appelle Lumo. Et donc à ChatGPT, donc tu as une interface où tu vas poser des questions, tout ça. C'est un petit peu l'ancienne version de ChatGPT, parce qu'il faut quand même, spécifier si tu veux qu'il fasse une recherche sur le web ou pas. Au début, ça m'a un peu dérouté parce que maintenant, on est un peu habitué à ce qu'ils le fassent tout seul. Mais après, ils ont fait une grosse mise à jour il n'y a pas longtemps. Et j'ai posé des questions pas plus tard qu'hier. Et les réponses étaient plutôt intéressantes, plutôt bonnes même, j'ai trouvé. Donc, c'est cool. Et après, voilà, ils mettent en avant la vie privée. Pas de stockage, pas d'entraînement, etc. Enfin, tout l'inverse de nos providers américains, quoi. Ouais. En gros, quoi.
Et surtout, ça appartient à la fondation à but non lucratif qui s'appelle Proton Foundation. Et donc, on reparle encore une fois de plus sur /// de la souveraineté, mais c'est tellement, tellement important. Clairement. Est-ce que c'est quelque chose qui est open source ? Est-ce que tu peux le faire tourner sur ta machine ou tu es obligé d'utiliser, tu croques des tokens chez eux ?
Non, c'est pas open source. Par contre, c'est ouvert, je crois. Je crois que le code est ouvert, mais c'est pas open source. Tu vois, open source code, tout... ah si, c'est open source. Tu vois, je te dis une connerie.
Okay. Non, c'est mais c'est
tableau en plus.
Et après,
la dernière ligne, tu vois, open source code to the public.
Ouais. Ok. Et tu peux le télécharger pour le faire tourner en local.
Pas sûr, en fait. Non, okay. Je suis pas sûr. Pas sûr que tu puisses, mais par contre, tu peux vérifier le code. De toute façon, chez Proton, je crois que la plupart du code est open source, même pour les mails, tout ça. Et
OK. En fait, eux, ils vendent l'infrastructure qui fait tourner.
L'infra, c'est leur spécialité. Ouais. Voilà, le fait que ce soit pas crypté, etc. À savoir, alors pour la petite histoire de Proton, on en a discuté, là, je sais pas, il y a pas longtemps aussi, ils ont commencé à prendre des serveurs en Norvège parce qu'il y a un texte de loi qui va peut-être sortir. Enfin voilà, c'est pas de suite, hein. Mais en Suisse, ils prévoient peut-être de demander l'accès aux serveurs un peu à l'américaine. Et du coup, Proton, dans la vision de protéger les utilisateurs, ils ont commencé à prendre des serveurs ailleurs qu'en Suisse, dans le cas où ce texte de loi passerait. Donc, tu vois, ils ont vraiment, on peut dire qu'ils ont vraiment une priorité pour protéger les utilisateurs, à savoir quand même que d'après certains Suisses, le texte n'en est qu'au début et que ça peut évoluer et que ce sera peut-être pas aussi extrême. Donc voilà.
Ok. Mais en tout cas, ça a toujours été leur marque de fabrique, la privacy, quoi, vraiment. Et donc, bah oui, ils anticipent et ils font tout pour éviter que ça arrive. Et en tout cas, de se faire surprendre par un texte de loi qui serait un peu...
qui les obligerait à ouvrir les données des utilisateurs, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Top. Écoute, Patrick, on en reste là pour cet épisode. Un grand merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Un petit pouce, un petit commentaire pour soutenir le podcast est toujours le bienvenu. Évidemment, si vous pouvez plus, le GitHub sponsor est toujours là. Et nous, on vous dit à bientôt pour d'autres épisodes. Ciao, ciao.
Ciao.